بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chers en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de consacrer quelques temps, un peu de notre temps après la salat de Isha pour étudier une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est là une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, nous annonçons également la bonne nouvelle de la venue très prochainement du mois de Sha'ban et ce mois de Sha'ban qui sera le muqaddima, on va dire l'introduction du mois de Ramadan et c'est un mois à travers lequel nous devons faire un maximum d'efforts, principalement de l'accomplissement des jeûnes, de jeûner. Donc au maximum, on avait rappelé le hadith après la salat al-Maghrib, Usama ibn Zayd, qui était une des personnes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui témoigne qu'il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner autant durant un mois que durant le mois de Sha'ban. Bien sûr, on ne parle pas du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Sha'ban a une valeur spéciale et cela permet aux croyants de se préparer au mieux pour le mois de Ramadan. Ce qui veut dire que ce mois béni a besoin de préparation, de mujahadatun nafs, de faire un effort sur soi. Et justement, le bab, le chapitre qu'on étudie, qu'on a commencé donc à voir depuis la semaine dernière, bab al-mujahada, chapitre sur les efforts et la persistance dans les bonnes œuvres, c'est par excellence le chapitre qui, Inch'Allah, va nous accompagner durant les lundis du mois de Sha'ban, pour que nous soyons, j'ai presque honte de dire au top, parce qu'on n'est jamais vraiment au top, le top c'était le Sahaba, mais que nous nous préparions au mieux pour accueillir ce mois de Ramadan. Alors la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un parallèle entre le mujahadatun nafs, le fait de se montrer persévérant et de faire des efforts dans les bonnes œuvres et l'éloignement de haram, et le thamarat, l'apport du jeûne. On avait rappelé qu'une des actions qui permet aux mu'min, aux croyants, de faire le maximum de bonnes œuvres et de se corriger intérieurement et de s'éloigner du haram, c'est le jeûne. C'est la meilleure madrasa possible. Il n'y a pas meilleure école, il n'y a pas meilleure thèse qui est une nefs, purification intérieure, que celui qu'on va apprendre à travers le jeûne. Et la raison est très simple, lorsqu'une personne fait le niya du jeûne, Allahumma inni asumu ghadan lak, il promet à Allah Azza wa Jal de faire le sawm al-imsak, ay al-imsak an al-akl wa ash-shurb wa jami' al-muharramat. S'éloigner de manger, boire, bien sûr, ça c'est les masa'il de base, mais également l'intention ferme de s'éloigner de tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah Azza wa Jal. C'est une promesse qu'on renouvelle tous les matins. Et donc ce jeûne, c'est vraiment l'occasion de se montrer le plus vigilant possible. Ainsi, durant le mois de Ramadan, une personne qui peut-être avait de mauvaises habitudes toute l'année, ben, elle prendra beaucoup plus de précautions en ce qui concerne ses paroles. Il va faire en sorte de ne pas parler sur les gens. Il va faire en sorte de bien analyser ce qu'il dit. Il n'y aura pas de médisance. Très rare, des personnes qui se laissent aller dans la médisance, dans la calomnie, pendant le mois béni, parce qu'il y a une prise de conscience de l'importance de cette action. Pareil, on fera beaucoup plus attention au raddul basar, le fait de contrôler son regard. Il a réalisé dhalik. Et donc, comme on avait dit, que ce psaume, c'est une rahma, c'est une bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal. Et quand on a complété un cycle, là, je pense qu'on est à la phase la plus complexe, là, spirituellement, 10 mois. Allez, on va dire entre 10 et 11 mois qui nous éloignent du dernier Ramadan, on a certainement perdu de l'éclat, du nour qu'il y avait durant ce mois béni, et on est peut-être au point le plus faible. Et quand Allah nous envoie, on pourrait dire, cette bouée spirituelle de sauvetage qui est le mois de Ramadan, c'est vraiment une faveur de la part d'Allah, ça nous permet de refaire surface, ça nous permet de reprendre les bonnes habitudes. Durant le mois de Ramadan, mashallah, les masajids sont remplis, les gens viennent nous venons aux 5 salats. Durant le mois béni, on fait des efforts pour lire le Coran. Durant le mois béni, on s'efforce de faire le tahajjud de Qiyamul Layl. Parce qu'une personne
une personne se sentirait mal à l'aise de se réveiller pour le suhoor, pour manger, et il ne fait pas deux unités de prière, il lève pas ses mains, il ne demande pas un peu de doua à Allah durant la dernière partie de la nuit. C'est ce genre d'actions qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et ce genre d'action qui caractérise al-nubala, les nobles, les gens les plus aimés par Allah, ben du coup cela se, entre guillemets, se démocratise. Ça devient umouman, ça devient quelque chose d'accessible à tout le monde. Et le fait qu'on l'accomplisse, le fait qu'on lise le Coran, qu'on fasse nos cinq prières durant le mois de Ramadan, qu'on se réveille pour le suhoor, qu'on fait deux rakats de tahajjud tous les soirs au minimum, et qu'on fait un peu plus de doua le matin avant le suhoor et au moment de rompre le jeûne, tout ça, ikhwan et fillah, ça c'est la lumière du Ramadan, c'est la lumière de Hidayah. C'est pas toi qui as envie de le faire, c'est pas parce que tu respectes le mois béni, c'est Allah qui t'amène vers lui. Tout ça, ce sont des lumières qu'Allah nous accorde à tous, des tawfiq qu'Allah accorde à l'ensemble de la Ummah durant ce mois béni. Et il y a besoin de persévérance et d'effort dans cette voie. Pour l'introduction de ce chapitre sur la persévérance, justement, parce qu'il n'y a rien de plus difficile, surtout à notre époque, et on le répète tout le temps, et on ne le répétera jamais assez. Mes chers frères, en islam, nous vivons une époque de fitna, une époque de péché, une époque où pratiquer la religion est de plus en plus complexe. Pratiquer la religion en 2018, c'est beaucoup plus dur que nos parents quand ils pratiquaient en 1970, ça c'est très clair. L'accès au péché avec le portable, avec la télévision, pas le cheikh lui, il est mentionné avec son Coran, avec la télévision et ainsi de suite, l'accès au péché c'est devenu âme. Un enfant de 8 ans, il peut voir n'importe quoi. Un adulte de 75 ans qui n'y pense plus, ben il peut revoir des choses qui font naître de mauvaises pensées. Il a raison, il y a que le péché est malheureusement partout. Et cela nous rappelle ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous avait dit concernant le fait de rester ferme dans le droit chemin à la fin des temps. Quelle est la métaphore utilisée? C'est aussi difficile que de tenir une braise ardente. Et ça, c'est l'exemple qu'on donne aux élèves à la madrasa. Dit, quand vous allez en vacances, au Comores, à Mayotte, je dis, qu'est-ce que vous aimez faire? Manger brochette sur la plage. Je dis, ben tiens, mais moi aussi, j'aurais aimé faire ça un jour. Inch'Allah. Je dis, ben quand vos parents, ils allument le feu, le charbon, ben ne faites pas, mais pensez une seconde. Le charbon, quand il est blanc, c'est quand il est blanc qu'il est le plus chaud, oui ou non? C'est quand il est blanc qu'il est ardent, il est blanc et rougeâtre. Je dis, imagine, est-ce qu'une personne, un être humain, peut prendre ça dans sa main et le serrer? Personne. Je dis que je te donne 500 euros, tu le tiens deux secondes. Personne ne le fait parce que ça te brûle. C'est-à-dire que tu peux même pas tenir une seconde, ça a des conséquences. Ça veut dire que la métaphore utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple, c'est un exemple nabawi. C'est un exemple prophétique. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est l'exemple qu'Allah Azza wa Jal inspire au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire à sa ummah, parce que cet exemple-là, elle pénètre directement les cœurs purs. Et cet exemple-là, elle traverse les siècles et les générations. Il y a parfois des citations de grands philosophes, de grands poètes, de grands écrivains qui meurent lorsqu'ils meurent et dont on ne retrouve plus trace. Il y en aura quelques-unes qui se répètent à travers les temps, mais les exemples, les métaphores et les paroles du prophète sallam, ça traverse les générations, les frontières, les époques, et ça touche les cœurs, comme cela a touché le cœur d'Abu Bakr, de Umar, de Uthman et de Ali. Ça peut toucher notre cœur, parce que ça vient d'Allah. C'est Allah qui a inspiré le prophète de nous dire et de nous donner cet exemple. C'est comme tenir une braise ardente. Et, sarahatan, avec clairvoyance, nous voyons que les époques avancent et il est de plus en plus difficile pour une personne de rester ferme, de s'éloigner des péchés et de rester mustaqim dans l'adoration d'Allah, qu'Allah nous donne la possibilité de le faire. Et si on veut voir le meilleur de nous-mêmes, c'est durant le mois de Ramadan. Le meilleur d'Ibrahim, le meilleur de Nabil, le meilleur de Isa, le meilleur de Luqman, de Abdullah, c'est le Abdullah, le Luqman, le Isa, l'Ibrahim du mois de Ramadan. Là, on est au summum de notre foi. Là, on est au top vraiment spirituellement par rapport à notre faculté, à notre capacité. Ben, imaginez que nos 12 mois de l'année étaient comme ça, subhanallah. Ben, c'est l'objectif. c'est essayer de monter le niveau de ibada, monter le niveau de résistance face au péché, face au haram. Imagine, durant toute l'année, on contrôlait nos regards, on contrôlait nos paroles, on contrôlait nos faits et gestes, on contrôlait nos pensées. Imaginez, durant toute l'année, on était régulier aux 5 prières. Imaginez, durant toute l'année, on faisait tahajjud kulla layla, et que durant toute l'année, on faisait doua avant le maghrib. Anecdote. La semaine dernière, on avait parlé de ces deux chers de Riyad qui étaient venus à la masjid de Saint-Clotilde et qui avaient fait salam à certains de nos frères. Et un de ces chouyours qui vient de Riyad, de la capitale donc, il y a un qui a enseigné 4 ans aux îles Comores. Donc il parle plus ou moins bien comorien. Il avait parlé avec certains frères. Bref, et on était donc en sortie. Ils étaient là pour 48 heures, une visite de courtoisie, une visite amicale, rencontrer les frères en islam. On était donc en sortie très loin d'aller haut de la plaine des Kaf visiter, et il restait 20 minutes avant le maghrib. Je me demande, Ibrahim, kam baqi lis-salah? Il reste combien de temps pour la salat de maghrib? Je dis, il reste 15 minutes. Il dit, idhan naskut wal jami', et on arrête de parler et chacun fait ses adhkar et fait ses doigts. Alors que durant tout le trajet, on parlait, on expliquait plein de choses. 15 minutes avant l'heure de Maghreb, l'heure officielle de Maghreb, soukout, que tout le monde se taise et chacun fait ses doigts. Mais là, je me suis dit que pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas cette bonne habitude? Pourquoi est-ce que nous avons perdu, nous, cette bonne habitude? Alors que le moment avant le Maghreb, c'est un moment important pour faire doigts. Qu'est-ce qui fait qu'on a perdu cette habitude? Mais qu'est-ce qui fait que durant le mois béni, tout le monde, au moins 5 minutes avant le Maghreb, est en train de faire doigts? C'est parce que on connaît l'importance du doua au moment de rompre le jeûne, mais c'est également parce qu'Allah a donné le nour, la hidayah à chaque personne de s'orienter vers lui à cet instant. Ben voilà l'objectif, essayer de ramener un niveau, de prendre notre futur Ramadan ou alors notre ancien Ramadan comme modèle et faire en sorte que les autres jours de notre vie, on essaie de s'en inspirer. Et comme on a dit, quel bonheur spirituellement si tous les soirs on pouvait se réveiller pour la prière de la nuit, si on pouvait consacrer tous nos lundis et tous les jeudis de notre vie à jeûner, comment est-ce que cela nous serait extrêmement profitable. Babul Mujahada, chapitre sur l'effort et la persévérance. On avait dit la semaine dernière, on commence toujours par un verset pour introduire le chapitre. Et il y a 4 versets, ou même 6, cités par l'auteur. On en retiendra 2, lesquels on avait décidé, bismillah, il y a bien sûr, « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin »« Adore Allah jusqu'à ce que te vienne la certitude ». Mais avant cela, un autre verset qu'on a beaucoup moins l'habitude de citer. On est dans la sourate al-Muzzammil, le verset 8, وَذُكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلَ. Traduction du verset, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Consacre-toi totalement à lui. Pourquoi est-ce que ce verset est cité dans le chapitre sur la persévérance? Parce que ce verset nous incite à nous consacrer uniquement à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. As-Sa'di, rahimahullah, de ce tafsir écrit, alors ça c'est Wa'bud Rabbak, on cherche le tafsir, ça c'est Ibn Kathir, voilà. Wa tabattal ilayhi tabtila ay inqati' ila Allah ta'ala fa innal inqita' ila Allah wal inabat ilayhi huwa al infisal bil qalbi 'an al khala'iq ila akhir kalami. Il dit, essaye d'arriver à une situation où tu arrives parfois à te couper totalement des créatures, de toute makhloukat. À te couper totalement des makhloukat et à orienter ton cœur uniquement avec Allah. Essaie de trouver des périodes de solitude totale avec ton Seigneur. Ça, c'est vraiment un objectif à atteindre. Et c'est durant le mois béni, vraiment, qu'on arrive à se réveiller à 3h30 du matin, on peut prier 30 minutes, 40 minutes, faire les doigts. C'est vraiment des moments exceptionnels. On écoutait un tafsir d'Al-Maram ici, le imam de Masjid Quba, un tafsir de la sourate Fatir, Alhamdulillah, Fatir, Samawati, Wal-Ard. Et pendant ce verset, il y a dans ce chapitre, il y a un verset qui parlait du prophète Daoud et du prophète Suleyman alayhi salam, et il parlait des ibadas, de leur nuit qu'ils passaient en qiyamul layl, en tahajjud. Il a dit que si nous voulons essayer de faire un tahajjud semblable à un de ces deux prophètes, il faudrait qu'on se réveille à minuit 45. pour avoir la portion qu'il passait en prière de la nuit. Qu'on se réveille à minuit 45. Certains sourient parce que des fois à minuit 45, on est encore debout. Devant FIFA Soccer, devant Ligue des Champions, devant Call of Duty, devant Allah Musta'an, autant de choses qui nous font, ou devant Facebook, autant de choses qui nous font perdre du temps. Elle dit, réveille-toi, elle dit, fais le niyat au moins une fois de ta vie. De faire cette prière de la nuit. Et puis je me rappelle plus, est-ce que il prenait l'exemple de Daoud ou de Suleyman? Les deux histoires étaient citées les uns après les autres. Donc je ne distingue plus un de ces deux prophètes. Et c'est de faire vivre la sunnat de soit Daoud, soit Suleyman al-Salam. Elle dit, cela équivaut à se réveiller à minuit 45 et de faire la prière de la nuit jusqu'à à peu près 3h45 du matin. C'est-à-dire 1h ou 1h30 avant le subh al-sadiq, 1h, 1h30 avant la prière, le tahajjud, c'est-à-dire en heure d'été, bien sûr. D'accord? Ça nous fait combien de temps? Minuit 45 à 1h45, 2, 3, 3 heures de temps. 3 heures de notre nuit, si on peut le faire une fois, et ce qui était bien, il dit que si quelqu'un essaie de le faire au moins une fois dans sa vie, mais surtout qu'il n'en informe personne. Elle dit ça, c'est ce genre d'action qui reste secret entre nous et Allah. Et on a grandement besoin d'action secret entre nous et Allah, que personne ne sait. Que personne ne sait, ça c'est notre sirr, notre secret, et c'est de là que nous allons puiser le secret de notre relation avec Allah. C'est de là que nous allons puiser notre concentration dans la prière. C'est de là que nous allons puiser notre concentration dans la lecture du Coran. À travers ces a'mal qui sont spécifiques, qui sont au-dessus du lot. Les cinq prières, mashallah, tout le monde le fait. Si on veut que nos prières aient une valeur spéciale, qu'on ait une relation vraiment spéciale avec Allah, ben accomplis des actions qui dépassent l'ordinaire, c'est-à-dire qui dépassent l'ensemble des croyants. C'est-à-dire 2 ou 3 heures de Qiyam al-Layl, par exemple, ça va te donner une force spirituelle pour les autres actions extraordinaires. Et Al-Maram ici, dans un autre tafsir, ce n'était pas un tafsir, c'était des questions-réponses. Après les tafsirs, il y a des questions-réponses. Une personne avait posé la question, je lis le Coran, mais quand je lis le Coran, je ne ressens strictement rien. Ce sont des gens de Madina qui demandent, hein, de l'assemblée, et donc des gens qui sont arabophones à 100%. Il dit que je lis, je comprends, mais il n'y a rien qui se passe dans mon cœur. Il m'a dit que je ne ressens pas de frisson comme c'est cité de le verset Waïda, qui me rappelle le verset Alladhina idha dhukira Allah, Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubhum, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Le croyant, quand il entend les versets d'Allah, les versets du Coran, la parole d'Allah, la foi augmente et la confiance en Allah augmente. Et cette personne posait une question, il y a un cheikh, je lis le Coran mais je ne ressens rien de spécial. Et le cheikh a dit, vérifie tes bonnes actions, est-ce que tu es au point sur toutes les bonnes œuvres, le prière de la nuit, bref, ça c'est des choses qu'on a déjà citées, mais il y a une chose qu'il a dit et que ça m'a vraiment marqué, il a dit, et vérifie tes relations avec les gens. Il dit, sache, wa'alam anna qati'atur rahim, sache que le fait de rompre les liens avec la famille, ça fait partie des choses qui rendent le cœur obscur. Ça fait partie des choses qui sont un ha'il, qui sont un obstacle entre ton cœur et l'attachement au Coran et l'inspiration au verset du Coran. Ça veut dire qu'il y a, on comprend qu'on a un effort extrêmement large à faire. Il y a une quantité d'efforts à faire qui ne se limite pas uniquement à une action. Je viens à mes 5 prières. Ça, on va dire que chaque résolution, c'est une pierre qu'on pose à la construction de notre iman kamil. Mais il faut avoir une vision d'ensemble. Si je décide de venir à mes 5 prières, de jeûner le lundi et le jeudi, de faire le tahajjud, mashallah, tout ça c'est ni'ma de la part d'Allah et ça c'est huda wa hidayah min Allah. Mais regarde également dans les relations avec ta famille, si tu as rompu les liens avec un oncle, une tante, quelqu'un qui est proche de toi, ben sache que ça, c'est un frein. Ça t'empêche d'unir, de trouver la lumière de le Coran. Donc, Cheikh lui a répondu, peut-être que c'est un péché qui se trouve dans ta vie, et c'est là la source de ton éloignement ou de ton manque de concentration dans la lecture du Coran. Donc, quand on parle de Bab al-Mujahada, persévérance et l'effort, c'est quelque chose d'extrêmement fort, intense, et qui doit se faire de façon permanente. Donc, As-Sa'di, rahimahullah, il donne ce tafsir, subhanallah. Comment on enlève ça? Je ne peux plus accéder à mes pages. Allah Akbar. Khairan, inshallah. Alors, on essaie de rester avec nos tafsirs. On est en veille. Même sur le portable, on ne demande rien. Il y a des pubs qui viennent et qui bloquent votre écran. Alhamdulillah, c'est des choses clean, d'accord? Mais parfois, c'est des gens qui ne sont pas clean. On passe à Ibn Kathir, rahimahullah, qui explique que le même verset, que le verset « Wadkuris marabbika wa tabattal ilayhi tabtila » consacre-toi uniquement à Allah. Il dit « Ey akthir min dhikrihi » Ça, on a compris. Fais le maximum de dhikr Allah. « Wan qati' ilayhi » وتفرغ لعبادته اذا فرغت من اشغالك. Là on voit un avis, on va dire, qui nous est un peu plus accessible, alors que Saadi c'est un contemporain, mais il est parti vers une orientation, une grande spiritualité. Ibn Kathir, il a fait un tafsir en rapport avec les autres versets et les autres hadiths. Il veut dire que une fois tes occupations, tes engagements mondains, on va dire professionnels et familiales, accompli, ton devoir accompli. Par exemple, je travaille pour telle entreprise, telle société ou tel organisme. Ça ne veut pas dire que voilà, par rapport à ce qui a été dit, demain mardi, je ne travaille pas, je vais rester à la masjid. Mon patron m'appelle, dit, tu es où? Il a dit, salam alaikum. Et tu raccroches. C'est un problème là, oui ou non? Ça, c'est un problème, d'accord? Tu dois passer un examen à l'université ou autre, et, ou présenter une thèse, un mémoire, tu dis là, wa tabattal ilayhi tabtila, bas ibada, bas là. Ça marche pas. C'est-à-dire, idha farakhta, si tu as fini, tu as complété tes engagements professionnels, mais également familiales. Ne sois pas non plus ce père de famille qui, une fois son travail terminé, il vient directement à la masjid et il ne voit ni sa femme ni ses enfants le soir avant de dormir. Il ne prend pas la peine de parler avec ses enfants, de prendre un repas à table avec sa femme et ses enfants et de sonder le fond de leurs pensées, de leur cœur, voir comment est-ce qu'ils ont entamé un début de semaine. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de soucis à l'école? Essayer de remonter un peu leur moral, ainsi de suite. Malheureusement, on sort un peu du sujet. Quand on sort, nous, du travail, on a la tête tellement pleine. Si on avait deux têtes, ça aurait été juste suffisant pour apprendre tous les soucis de la journée. Oui ou non, Nabil? On a la tête tellement pleine que quand madame commence à dire « Ah, tu sais, aujourd'hui, elle dit, hey, pas casse-moi la tête, madame, oh bonne femme, pas casse-moi la tête. » Je ne sais pas en comment, en Maurice, ça se dit comment. Là, je vais dire en mauricien, « Ne me prends pas la tête. » C'est vraiment pas le moment. Là, la journée était difficile. En anglais, « Have a very hard day. » J'ai une journée difficile, d'accord? N'en rajoute pas. Ce n'est pas la bonne réaction. Et je parle pour moi en premier. Ce n'est pas la bonne réaction. On doit être capable de prendre sur soi. On doit être capable de prendre sur soi et de ne jamais oublier, là c'est un discours plus adressé aux messieurs, qu'on est le pilier de la maison. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulu an ra'iyati. Ça m'a dit que vous êtes tous des bergers. Et les bergers sont responsables de la troupeau. Qui dans cette assemblée a déjà vu un berger avec des moutons ou des cabris, peu importe? Qui a déjà vu? Le problème, c'est que nous ne sortons plus le dimanche. Masha'Allah. On ne sort plus le dimanche. Et quand on a le temps libre, on ne regarde ni le ciel, ni le coucher du soleil, ni le lever du soleil, ni la beauté des montagnes, ni la beauté de la mer. On regarde nos notifications. Allah musta'an. On regarde combien de messages Facebook, combien de likes, combien de shares, combien de tweets, combien d'Instagram, kilogrammes, milligrammes. Et la réalité, combien de Snapchat, ça c'est notre quotidien. Hein, les jeunes, oui ou non? Les super gays du fond, oui ou non? Wallah musta'an. C'est-à-dire qu'on a oublié d'apprécier la vie. On a oublié c'est quoi une poignée de main, une rencontre à Mohabba. C'est quoi une main posée sur l'épaule de son voisin, de son ami? Comment ça va? On préfère envoyer un hello, un petit signe du doigt. Hein? On préfère envoyer un poc. On préfère envoyer un truc sur Messenger, ainsi de suite. Mais la relation humaine s'est perdue. Là, on parle de insan. Mais la contemplation de la beauté de la création d'Allah. Qui a déjà amené ses enfants, Barachwa, regardez, hein? Mais j'ai jamais fait non plus. C'est pour ça. J'hésite, soit un lever, soit un coucher du soleil. Parce que les deux n'est pas possible au même endroit. Je sais pas. Est-ce que côté la mer, le soleil lève ou il couche? Laissez-moi vérifier demain avant de vous le raconter. Couchez. C'est ce que j'allais dire. Voilà donc. Barakallah fi. Qui a déjà amené ses enfants, regarder un coucher du soleil et lui montrer la beauté de la création d'Allah. Que ce soleil qui nous a éclairé une journée, il continue son cycle, le cycle qu'Allah lui a prédestiné jusqu'à la fin des temps, mais qu'un jour il viendra dans l'autre sens, sans entrer dans trop de détails, mais ne serait-ce admirer la puissance, le qudrat d'Allah Azza wa Jal, qui a déjà amené ses enfants voir la beauté d'une montagne pleine des palmistes, pleine des caves, silos, quand le ciel est dégagé, il voit la beauté, la grandeur, la magnificence des djibals, des montagnes, et lui rappeler les biens. C'est pareil, quand vous regardez, c'est ça, on s'est un peu détourné parce que on voulait parler de la contemplation, on a oublié de contempler. On vérifie, on check, on regarde, mais on ne contemple plus rien. Un berger, très souvent quand on dit « soyez un berger pour votre famille », on a l'impression que il faut qu'on rentre à la maison, nous mettre tout le monde droit, tac, tac, tac. Toutes les personnes qui savent attendre, on redresse, on recadre, on a crié avec Fatima, avec Mohamed, avec Ahmed, avec Abdurrahman, avec Zaviata, avec Zainaba, khalas, mission accomplie. Ah, moi-même le berger là, je suis super berger. Ou fa berger, Wallah Moustan. C'est pas ça être le berger. Le berger, c'est pas uniquement... Est-ce que, justement, quand quand le berger, il frappe les moutons, il tient les oreilles des moutons, il donne des coups de pied de la derrière, il les crie dessus? Non. Le berger, quelle est sa principale qualité? C'est la patience. La patience, la persévérance. C'est également lorsqu'il voit le mouton qui s'éloigne, qui veut brouter un petit peu là-bas, il comprend qu'il a faim encore. On le laisse, on l'attend un peu. On l'attend, mais s'il se rapproche trop du précipice, du gouffre, là on l'attrape. C'est-à-dire que on lui laisse profiter, on lui laisse prendre un peu de plaisir, mais en ayant un regard de rahma, mais également un regard protecteur. C'est ça le rôle du papa. C'est pas uniquement de brusquer les enfants, de dire « t'as fait tes devoirs, t'as pris ton sabbat, tu as été respectueux, il n'y a pas eu de problème à l'école, montre-moi ton carnet de liaison, il n'y a pas de mots. » On n'est pas un dictateur. Fini l'époque de Mussolini, de Lénine, de Staline. Nous, on est des parents, les cœurs remplis de rahma, les cœurs remplis d'amour. Il ne faut pas que de la relation entre nous et les enfants, c'est une relation de crainte et de peur. Que quand l'enfant voit le papa arriver à la maison, il se cache. Comme il ne faut pas non plus à maman de se dire « papa arrive là, allez cachette !» Ou « papa arrive, il faut te voir tout de suite !» Non. Au contraire, le papa, il montre à l'enfant qu'il veut du bien pour lui. Et même si il véhicule le message « fais tes devoirs », et s'il vient, il éteint la télé quand il voit ses enfants sont en train de se disperser devant l'étendue, l'océan de bêtises qu'il y a dans les petits écrans. Hamdé, la télé ne marche pas chez moi depuis 2 semaines. Inch'Allah, ça ne marche plus. Inch'Allah, ça ne marche plus. Ahsan, lil jami'. Et donc, les enfants, ils regardent, ils disent, papa, la télé ne marche plus depuis 2 semaines. Je dis, c'est pas mal. Je dis, essaie de réparer, sinon je vais appeler l'opérateur demain. Mais si ça ne marche pas, ahsan, c'est mieux parce qu'il y a tellement de bêtises. Et donc, c'est pas uniquement tu rentres, tu éteins la télé de le salon, tu dis, hey, tout le monde dehors. Tout le monde au bureau, allez apprendre sabbat, allez faire ton devoir. C'est pas comme ça, parce que l'enfant, il va pas t'aimer. Au contraire, il va te voir comme quelqu'un qui est un obstacle entre lui et ses plaisirs. Et c'est quelqu'un qui l'empêche d'avancer et d'apprécier sa vie. Bien au contraire, quand il faut éteindre la télé, il faut le faire avec sagesse. Je veux dire qu'écoute mon enfant, là tu as un examen, tu passes ton brevet bientôt, il y a telle chose, il faut que tu réussisses, c'est important. On a une époque où il est très difficile d'avoir un travail. Regarde moi-même, je travaille dur, je rentre tard le soir et je fais des efforts pour garder ce boulot et ainsi de suite. Il faut que toi tu aies un bon travail. D'accord, si moi je suis artisan ou j'ai telle profession, avec du respect pour toutes les professions, hein, bien sûr, moi j'aimerais que tu deviennes un médecin, que tu aies un métier qui te permet de vivre un peu mieux que papa, que tu te fatigues moins, regarde comment j'ai mal au dos. Il a réalisé, Alik, trouver un discours de compassion, de muhabba et de iradatul khair. Montrer à l'enfant qu'on veut du bien pour eux. Et pas montrer à l'enfant que de toute façon, toi, tu ne vaux rien, toi. Toi, de toute façon, depuis le départ, je savais que tu n'es pas comme ton frère. Pas de comparaison non plus. Allah, il y a les grands frustrés au fond qui rigolent. Non, ça va, on t'aime. On t'aime toi aussi. Ça, ce sont nos anciens élèves, ça. Il ne faut jamais dire que toi, ton frère, lui, c'est quelqu'un de bien. Toi, tu n'en vaux rien. Ça, tu casses complètement ce jeune. Psychologiquement, c'est Hiroshima, ça. C'est grave, ça. Comparer le frère et la sœur. Ta sœur, elle, regarde ses notes, regarde-toi. Toi, tu es un incapable. Toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu es en train de l'enfoncer. Tu es en train de le complexer. Et à un moment donné, il voudra évacuer ça et te montrer vraiment que oui, je suis le rebelle. Oui, je suis le méchant de la famille. Oui, je suis le pire. Je suis ton cauchemar. Tu m'as toujours pensé comme ton cauchemar. I am your nightmare. Je suis ton cauchemar vraiment. Allah musta'an. C'est-à-dire qu'il y aura l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il faut la tarbiya ikhwani fillah, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sagesse. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيْ. Il dit quoi? Ya Bunay, ô mon enfant. Et Bunay, c'est At-tasghir. C'est pour montrer la muhabba, l'amour. Ô mon enfant, la tushrik billah. Et je cherchais d'autres exemples de d'autres pieux prédécesseurs, mais là, ça ne me revient pas. Comment est-ce que dans leur relation de l'usloub, de la façon de s'adresser à leurs enfants, comment il y avait de l'amour, il y avait de la muhabba, et non pas parfois la dureté du cœur qu'il en a. Donc quand on dit le berger, c'est pas uniquement celui qui frappe, qui ramène, mais c'est celui qui donne du temps. Le berger, il donne son temps au mouton. Oui ou non? C'est son métier. Il, c'est pas qu'il dit au mouton, allez bon, là, il y a 10 mètres carrés de prairie, vous broutez en 15 minutes, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des courses. Non, c'est ça, c'est son métier, c'est son occupation. Et il veut le bien de ses moutons. Il sait que si ses moutons se portent bien, c'est meilleur pour lui. Pareil, il faut que cette iradatul khair. Donc, je ne sais pas qu'on est arrivé jusqu'à l'exemple du berger. On est parti très très loin. On a pris 4 khuruj, 4 makhraj, on est parti très loin. Mais bref, ce qu'on doit retenir, c'est ce que Ibn Kathir, rahimahullah, dit. Oui, voilà, on revient. Il dit que fais le maximum de dhikrullah et consacre-toi à lui une fois que tu t'es acquitté de tes engagements professionnels, mais également familiaux. Et comme on a dit, ne sois pas ce papa qui, en sortant du travail, il va directement à la masjid. Là, rentre chez toi, prends le ahwal de la maison et ramène tes fils à la masjid. Où sont les garçons? Je le dis l'autre fois. Où sont les élèves de la madrasa? Si tous les élèves de la madrasa, ceux qui ont plus de 13 ans, allez, on va dire, ceux qui ont entre 10, à partir de 10 ans, ils venaient, ça ferait la moitié de la masjid. Et tout ça, ça habite dans le quartier, ça. Je ne parle pas de ceux qui sont loin, à droite, à gauche. Tout ça, c'est dans le quartier. Et les parents, la plupart des parents sont là, les papas sont là. Il n'y a que les enfants sont en train de faire les devoirs. Permettez-moi de douter. C'est un manque d'engagement. Où ils sont à table, quand ils ont fini, ils vont regarder la télé ou faire autre chose et on les laisse. On se dit qu'ils sont petits, ils sont encore jeunes, il faut les laisser, la journée était longue, l'école c'est fatigant. Ikhwani fillah, la tarbiya c'est maintenant. La tarbiya c'est pas 18 ans, 19 ans. Khalas, comme Ali ibn Abi Talib, on va clôturer là-dessus. Quand je dis les 7 premières années, c'est hub, du temps et de l'amour. Exactement ce qui nous manque. On ne veut pas donner de temps et de l'amour, il ne faut pas nous demander parce qu'on a plein de choses à faire. Et ensuite, c'est l'éducation. Peut-être 7 ans, c'est tarbiya. D'où les conseils pour ça. Demandez, donnez l'habitude à vos enfants de prier quand ils, à partir de 7 ans. Et à partir de 14 ans, khalas. Ali ibn Abi Talib dit, à 14 ans, il n'y a plus de tarbiya. À 14 ans, l'enfant est déjà formé. C'est vrai qu'à cette époque, 14 ans, un enfant est mature. Hein. 14 ans, c'est un homme. De nos jours, 14 ans, qu'est-ce qu'il savent faire? Tout juste, il a traversé la rue. À 14 ans, tout juste, ils savent faire des courses ou aller acheter un kilo de tomate et ainsi de suite. Tellement ils sont soit à l'école, soit dans un monde totalement virtuel. D'accord? Ils sont capables de faire des choses sur ordinateur que nous ne savons pas faire, mais dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas cette maturité. Bref, Ali ibn Abi Talib dit, à 14 ans, il n'y a plus à éduquer l'enfant parce que à 14 ans, c'est un adolescent. Et à l'adolescence, on n'aime pas recevoir des ordres. Un adolescent, 14, 15, 16, si le papa lui dit va à droite, exprès il va aller à gauche. Si sa maman lui dit achète le t-shirt blanc, il va acheter le t-shirt noir. Je suis un homme, j'ai mes opinions, j'ai ma vie, my life. Je veux montrer que je suis pas comme le papa ou comme la maman. Donc, c'est-à-dire que si tu as formé ton enfant entre 7 et 14 ans, khalas, il est balir, il est déjà multazim bis-salah. Il n'y a pas besoin de lui dire, c'est le Daïcha. Lui-même, il vient, subhanallah. Qu'Allah, dans sa clémence et dans la pitié et de l'amour qu'il a pour nous, qu'Allah guide nos pas et nous permette d'être de bons pères de famille. De bons maris, bien sûr, pour ceux qui sont mariés et ceux qui sont parents, d'être de bons pères de famille, de bons ra'in, de bons bergers, et que nous puissions amener nos proches vers le droit chemin, inshallah, et qu'Allah nous donne la persévérance donc dans les bonnes actions et nous donne la possibilité de faire le maximum d'efforts. Permettez-moi juste de conclure ce que Ibn Kathir dit. Idha faraghta min mahamika, quand tu auras complété tes engagements et ainsi de suite, litakuna farigh al-bali wal qalbi, fais en sorte d'avoir le cœur libre et le cœur totalement consacré et orienté à ton Seigneur. Parce que tu ne peux pas démarrer une journée et compléter une journée comme un robot. Et honnêtement, nous vivons comme des robots. En métropole encore, ils peuvent dire métro qui complète. Boulot ou dodo, parce que ça se passe comme ça. Ils passent autant de temps dans les transports que quand ils dorment. Mais Allah nous a protégé ça. On n'a pas ce problème. Mais nous vivons, nous commençons à vivre également comme des robots. Entre le travail et ainsi de suite, on a besoin de méditation, du dhikrullah, que nos cœurs soient un peu orientés vers Allah. Et ça, c'est essentiel pour notre spiritualité. On va s'arrêter là. On va reprendre avec un peu plus de temps, inshallah, le tafsir d'Ibn Kathir de « وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.